Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé, Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et offre de soins avec plus de 40 000 collaborateurs et c'est Ramsay Santé. Et son directeur général Pascal Rocher est sur le plateau de Check-up Santé. Il est en France le deuxième acteur pharmaceutique sur le marché des médicaments délivrés en ville. C'est le laboratoire Viatris. Christophe Maupas, son président France, et Sébastien Michel, directeur des affaires publiques, sont aussi sur le plateau de Check-up Santé. Et pour finir, connaissiez-vous le 114? Moins d'un Français sur cinq déclare le connaître. Eh bien, c'est le numéro d'urgence pour les sourds et malentendants et ceux ayant du mal à s'exprimer. Véronique Equis, sa directrice, va nous dire comment ça marche. Check-up Santé, c'est parti. Pascal Rocher, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes bienvenu dans Check-up Santé, bien sûr. Vous êtes diplômé d'HEC. Vous avez occupé des postes stratégiques chez AXA, puis Barclays. Et vous êtes, depuis une douzaine d'années, un peu comme Check-up Santé, une douzaine d'années, directeur général du groupe Ramsay Santé. Ramsay Santé, c'est un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires.
Oui.
Européen, ça veut dire quel pays?
Alors, européen, nous sommes dans 5 pays, la France, la Suède, Norvège, Danemark et Italie, et on prend en charge 12 millions de patients dans 450 établissements de soins, dont 250 hôpitaux privés et cliniques.
Donc, quand on disait 40 000 collaborateurs, salariés, c'est à l'échelle européenne?
C'est à l'échelle européenne, un peu moins de 30 000 en France, sans compter les 9 000 médecins libéraux avec lesquels nous travaillons en France.
Donc j'imagine que beaucoup de patients passent chez vous.
Beaucoup, effectivement. Ouais. En France, par exemple, un Français sur neuf qui a besoin d'une opération, que ce soit dans le public, le privé, peu importe, c'est effectivement chez nous. On prend en charge 35 000 patients chaque année atteints d'un cancer en France, etc., etc.
Alors on le sait, vous avez été plus que présent pendant la crise Covid. L'hospitalisation privée a été vraiment très présente. Est-ce que ça a changé des choses dans l'esprit des Français?
Alors oui, je crois d'abord que oui, ça a changé des choses au-delà de l'épidémie du drame, de voir la complémentarité entre public et privé, voir que l'on a besoin de tous. Ramsay Santé en Ile-de-France, c'est près de 20% des patients pris en réanimation dans nos équipes. L'APHP a pris en charge 40%, un travail main dans la main. C'est, je dirais également, un esprit de confiance en partant des territoires, de la part de l'État français. Une complémentarité, les mêmes droits, les mêmes devoirs, et cet esprit, il faut qu'il perdure, et on est un peu soucieux, actuellement d'ailleurs.
On va en reparler. Pourtant, on a l'impression, les Français ne savent pas, doivent aller dans un service d'urgence,
oui.
On a l'impression qu'ils privilégient l'hôpital public. C'est un manque de communication, c'est...
Alors, peut-être,
ou alors,
oui.
Peut-être sont les services publics qui orientent, comme peut-être le SAMU qui orientent.
Non,
particulièrement vers l'hôpital public.
Oui, plusieurs choses. Il y a 20 millions de Français qui passent dans les services d'urgence chaque année. C'était 10 millions il y a 20 ans. L'hospitalisation privée, c'est 120 services d'urgence, 31 pour être précis chez nous. Près d'un million de Français pris en charge dans nos services d'urgence, avec en moyenne un temps d'attente entre 20 et 22 minutes. Alors, oui, parfois le SAMU peut aller un peu plus vers l'hôpital public, mais je dirais au-delà de ces querelles.
Plutôt dans certaines zones, plutôt dans certaines régions.
Plutôt dans certaines zones, mais au-delà de ces querelles, finalement, qui n'ont pas grande importance. Voilà, on est là dans une mission de service public, on en est très fiers. Pour tous les patients qui souffrent, comme vous le savez, d'une affection longue durée, le reste à charge est 0 €. Donc on est là dans cette mission de service public, bien sûr.
Donc il faut bien que les Français comprennent que c'est la même chose.
Absolument, c'est exactement la même chose.
Dans le public que dans le privé.
Oui, comme les accueils non programmés, on en a 13 en France, plus de 200 000 patients, qui en fait c'est une sorte de prise en charge intermédiaire entre la médecine générale de ville et le service d'urgence pour quelque chose de sérieux, mais de pas gravissime, pour désengorger également les services d'urgence. Donc on est tous là, public, privé, peu importe le statut, pour prendre en charge nos concitoyens.
On compte quelques dizaines d'ailleurs de services d'urgence dans vos...
On en compte 31 pour être précis, 31 en France.
Alors... On le voit, le contexte est un petit peu particulier, hein. L'hôpital public pleure, mais les hôpitaux publics privés pleurent aussi. pas pour les mêmes choses ?
Si, grosso modo, on pleure pour la même chose qu'est l'inflation, tout simplement. On est dans un système en France, contrairement, j'étais encore en Suède il y a quelques jours, à d'autres pays, où on est chaque année avec un ONDAM, le vote au Parlement des dépenses de santé, un outil comptable sur un an, qui n'est pas fait, je dirais, pour subir de l'inflation. Donc effectivement, l'ensemble du monde hospitalier, public ou privé, peu importe, nous demandons au gouvernement une rallonge d'1,5 milliard sur 2023 pour éviter que l'ensemble de nos hôpitaux publics ou privés aillent vers le déficit. La France a besoin d'une hospitalisation publique forte et d'une hospitalisation privée forte. Aujourd'hui, les deux vont mal et c'est un grave souci pour le système français.
Une grande partie des établissements sont en déficit ?
Oui, oui, vous avez raison. Le monde de l'hospitalisation privée, l'an dernier, près de 40% des établissements étaient en déficit. Nous sommes Ramsay Santé entreprise à mission et en même temps, nous investissons nos actionnaires sur fonds privés. Donc, on a besoin d'un minimum de résultats pour réinvestir. 40% en 2023 des hôpitaux privés en France étaient en déficit. Si le gouvernement là, ne nous aide pas, le monde hospitalier, en 2024, 50% sera en déficit. Conséquence, fermeture de certains services, restructuration, moindre attractivité.
Pénurie
on est dans ce cercle vicieux.
Un cercle vicieux, pénurie de médecins.
Absolument, on est dans ce cercle vicieux, tous, je veux dire, public et privé confondus.
Oui, je voulais parler de deux poids deux mesures, mais vous représentez 35% d'activité et pourtant 18% des dépenses.
Oui, seulement, effectivement, 35% de l'activité en France, plus de la moitié de la chirurgie est faite dans le privé, 40% de la prise en charge de la cancérologie est faite dans le privé et effectivement, ce que nous demandons, c'est les mêmes devoirs et également les mêmes droits. Nous sommes, pour le même patient et la même pathologie, moins rémunérés que le public depuis 2006, la tarification à l'activité.
Un accouchement, par exemple, à l'hôpital privé.
En moyenne, hors honoraire des médecins, en moyenne, nous sommes payés à peu près 28% de moins pour la même parturiente, la même femme qui va venir chez nous. Mais le problème, c'est que depuis deux ans, suite au Covid, l'écart s'est accru parce que le gouvernement, et on peut le comprendre, a mis en charge Ségur 1, Ségur 2, des mesures, Madame Borne, Monsieur Guérini, pour revoir les salaires du public, pour revoir le travail de nuit. Mais nous, privés, on n'en a pas bénéficié. Or, nous ne décidons pas des prix auxquels nous sommes payés. C'est l'État qui fixe nos prestations. Et par ailleurs, on a besoin des mêmes mesures que le public. Sinon, nous allons tous dans une situation structurellement déficitaire. C'est intenable.
C'est quand même possible de se maintenir à votre, au niveau d'excellence que vous avez pris. Donc dans, vous êtes pris en étau en plus.
D'abord, c'est notre rôle. On est là pour prendre en charge les patients. On n'est pas parfait. Nous avons, pour ce qui nous concerne en France, tous nos hôpitaux à fin décembre étaient certifiés ou certifiés avec mention par la Haute Autorité de Santé. 15 points de mieux que l'ensemble des hôpitaux français. Voilà. On doit être gestionnaire responsable des deniers publics, ce que nous sommes, puisque nous sommes moins payés malheureusement pour le même patient, la même pathologie, et en moyenne, la qualité que nous délivrons est supérieure. Et moi je le vois une fois de plus dans les autres pays, il faudrait vraiment que dans les dépenses de santé, les 250 milliards que l'État investit chaque année, 12% du PNB, la rémunération à la qualité décidée par l'État soit beaucoup, beaucoup plus importante et sur le long terme. C'est comme ça que certains pays scandinaves ont passé le cap, je dirais, des contraintes budgétaires.
Et malgré tout ça, vous innovez sans cesse dans vos cliniques.
Alors, on essaye d'innover sans cesse parce que c'est un métier passionnant, fascinant. Ça fait 12 ans que j'ai la chance d'être dans ce métier. C'est un métier merveilleux où on sait que demain, on fera mieux qu'aujourd'hui sur un plan médical et ou dans la prise en charge, la manière de délivrer le soin, mais ces contraintes économiques. Plus de 60% de l'ambulatoire en France est fait dans le privé, etc. Mais une fois de plus, on a besoin des deux secteurs. On est là pour prendre en charge les patients. Il y a une complémentarité, il y a une émulation. On cherche à innover, ne serait-ce qu'avec ces contraintes budgétaires. Mais là, on est au bout d'un système, sincèrement.
Est-ce que vous avez une même une bonne collaboration avec les médecins de vos établissements.
Oui, on travaille avec plus de 9000 médecins libéraux.
On reproche parfois certains établissements de ne pas tenir compte des idées, des préoccupations des médecins.
Alors, on cherche au maximum...
Aussi bien du public que du privé.
Oui, non, vous avez raison. Alors, je me permets de vous le dire. Effectivement, lorsqu'on réunit 50 médecins dans un de nos hôpitaux, il peut y avoir un certain nombre de points de vue différents. À nous de trouver, je dirais, une convergence, d'émettre des idées, etc. La manière dont nous travaillons dans l'hospitalisation privée, si je prends Ramsay Santé, il y a un comité d'orientation médicale. Je rencontre personnellement les présidents de CME deux fois par an. Nous sommes en train, avec l'équipe en France, de rencontrer le soir dans nos établissements tous nos médecins qui sont invités. Voilà, on cherche à écouter, à comprendre, à décider aussi. On est tous là pour prendre en charge, œuvrer pour la prise en charge de la santé des Français.
Alors, pour finir, comment voyez-vous vos établissements dans les 10 prochaines années?
Alors, ce qu'on voit, effectivement...
Dans les 10 prochaines années.
Oui, écoutez, en supposant qu'on franchisse ce cap, ce ce qu'on voit, c'est on travaille beaucoup sur l'offre de soins intégrés. Je crois que le diagnostic est partagé en France et dans les autres pays dans lesquels nous travaillons. Le futur, c'est de plus en plus de malades chroniques qui ont besoin de parcours de santé organisés depuis la prévention, parents faibles en France, les centres de soins primaires, la médecine de ville, l'imagerie, l'hospitalisation, le soin à domicile. Nous travaillons sur cette chaîne, nous avons des centres de soins primaires, etc. Proposer aux Français des parcours de santé dans des métiers de plus en plus spécialisés par discipline médicale, c'est ça l'avenir et c'est ça que nous cherchons à proposer dans les grandes pathologies à nos concitoyens.
Eh bien, vous revenez quand vous voulez dans l'émission Check-up Santé. Merci beaucoup, Pascal Rocher.
Merci à vous.
On va accueillir à présent Véronique Ecky, qui dirige le 114.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Véronique Ecky, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes, vous, gynécologue obstétricienne à Grenoble. Vous venez de Grenoble aujourd'hui ?
Tout à fait.
Ah, merci, franchement, merci. Et vous êtes chef du service du 114. Alors là, le 114, c'est vrai que peu de gens connaissent le 114. On connaît le 15, on connaît le 17, le 18. Mais le 114, c'est vrai que peu de gens le connaissent. Et j'avoue que je ne le connaissais pas avant de discuter avec vous.
Dites-moi. Très bien, je vais vous expliquer ce qu'est le 114.
Alors, il existe pourtant depuis longtemps.
Il existe depuis 2011, donc ça fait 12 ans maintenant.
12 ans, mais enfin, il a évolué avec le temps.
Il a évolué. Donc, c'est le service public qui permet aux personnes qui ne peuvent pas téléphoner, donc les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles et aphasiques, de contacter le secours le 15, le 17 et le 18, puisque le SAMU, le 15, le 17, gendarmerie, police, et puis le 18, sapeurs-pompiers, ne sont accessibles que par téléphone.
D'accord. Donc, du coup, donc, on peut, d'une autre façon, donc, contacter les secours.
C'est ça.
Alors, de quelle façon, justement ?
Alors,
quand on est sourd, malentendant ou même aphasique, parce que ça ne s'applique pas simplement aux sourds et malentendants, ça s'applique aussi à ceux qui ont du mal à...
Qui ont du mal à communiquer, à trouver leurs mots. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est une application qu'on va pouvoir télécharger sur les stores des téléphones, ou alors il y a un site internet, et qui va permettre à ces personnes de communiquer en conversation totale. C'est-à-dire qu'on va utiliser la visio, qui permettra aux sourds de parler en langue des signes, qui est leur langue maternelle, avec un agent régulateur sourd. On va permettre aux personnes devenues sourdes ou malentendantes de communiquer en parlant et puis en lisant le texte puisqu'elles n'entendent plus bien.
Et c'est ça l'évolution, parce que jusqu'en 2018, il n'y avait que des SMS.
Voilà, en 2018, c'était que des SMS. Et puis les aphasiques, en fait, on va leur permettre de communiquer avec des icônes. J'ai mal à la poitrine, si j'arrive pas à dire poitrine, je ne vais pas donner l'alerte sur mon infarctus. Donc si j'ai une image de quelqu'un qui a mal à la poitrine, c'est plus facile d'utiliser le pictogramme.
Alors, évidemment, il faut une application. Donc, il faut avoir un smartphone ou un ordinateur ou un...
Voilà, il faut un smartphone ou un ordinateur. En situation d'urgence, le smartphone est quand même plus évident. On n'est pas toujours chez soi quand on a une urgence. Et puis, c'est important aussi que ces personnes, qu'elles soient victimes ou témoins, puissent appeler les secours pour jouer leur rôle de citoyen, comme tout un chacun.
Alors, justement, un patient peut avoir du mal à s'exprimer, pas seulement parce qu'il est aphasique ou parce qu'il a un problème. Parfois, il y a des situations où, par exemple, si tu es en situation d'asthme sévère, on a du mal à s'exprimer. C'est l'occasion d'utiliser le 114.
Alors effectivement, quelqu'un qui est asthmatique, qui fait une crise d'asthme et qui peut pas communiquer par téléphone, peut envoyer un SMS au 114. S'il a téléchargé l'application, il va pouvoir l'utiliser. C'est des situations qui sont exceptionnelles dans notre population cible, on va dire moins de 1% des cas. Mais bien sûr, quelqu'un qui a une trachéotomie après un cancer ORL et qui peut pas parler, va pouvoir utiliser le 114. Donc on va pas faire le listing, il y a plein de situations individuelles, mais bien sûr, on leur répondra.
Alors, on a oublié de dire quand même qu'il y avait 7 millions de personnes en France qui avaient une déficience auditive, c'est ça, dont 700 000 de sourds profonds.
C'est ça, voilà. Donc, 700 000 doivent utiliser le 114 pour pouvoir appeler les secours. Donc, ces personnes-là, il faut absolument qu'elles aient l'information. Et puis, les gens qui deviennent sourds, par exemple, avec l'âge, de plus en plus, ils vont en avoir besoin. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils vont mal interpréter les questions qui leur seront posées. Et peut-être la réponse, elle ne sera pas adaptée.
L'intérêt aussi du smartphone, c'est d'être géolocalisé.
Voilà, donc l'application, elle géolocalise la personne. Il y a énormément d'informations qui arrivent aussi par la visio. Et c'est vrai que nos agents régulateurs, ils sont formés à transmettre toutes ces informations aux agents régulateurs des centres de secours qui sont en proximité dans les départements. La plateforme 114, elle est à Grenoble pour toute la France, département, communauté d'outre-mer. Mais par contre, on est en lien avec le centre 15, 17, 18 de chaque département.
Vous avez beaucoup d'appels par jour ?
Alors par jour, il y a 80 dossiers qui sont traités. En réalité,
à Grenoble.
À Grenoble, voilà, donc pour la France entière. 50% ne concernent pas les publics cibles, ces personnes entendantes qui croient que le 114, c'est les urgences par SMS, mais c'est pas du tout ça. Hein. Et puis, parmi les personnes qui sont cibles, des fois, elles utilisent le 114 parce qu'elles ont perdu leur clé pour appeler le serrurier, c'est pas fait pour ça non plus.
D'où l'utilité, donc, d'où l'intérêt de communiquer sur le 114 voilà. Et de donner ses vraies
donc,
fonctions.
Donc, il y a 20 dossiers qui sont reliés aux urgences par jour, et ça
c'est
devrait être plus
c'est
si tout le monde télécharge l'application.
Donc, on rappelle, c'est donc gratuit, disponible 24h/24, 7 jours sur 7, et réservé aux personnes, évidemment.
Qui ne peuvent pas téléphoner, des raisons médicales, on va dire.
Merci beaucoup Véronique.
Merci de votre invitation.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Christophe Maupas, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe Maupas, vous êtes médecin.
Nobody's perfect.
Voilà, personne n'est parfait. Vous avez fait Sciences Po quand même, en plus. Vous avez fait Sciences Po. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui chargé d'enseignement.
Tout à fait.
Et vous êtes dans le monde de la santé depuis longtemps, puisque vous êtes passé par les laboratoires Organon, MEDA, Mylan, et vous êtes le président maintenant de Viatris France. Viatris, c'est ça, est né de la fusion de Mylan et de...
Upjohn, oui. Mylan, qui était un pionnier du générique, et s'est rapproché d'Upjohn, donc avec des produits de marque. Donc, on distingue les produits de marque et les génériques. Et donc aujourd'hui, voilà, on a ces deux activités.
C'est assez récent
nous.
D'ailleurs. C'est
2020.
2020, il y a 4 ans, oui. Et vous êtes archi-présent sur le marché français du médicament en ville.
Oui, alors si vous allez en pharmacie ou à l'hôpital, un petit exemple, en une seconde, il y a 12 patients qui vont recevoir une boîte d'un produit Viatris. Voilà. Et si vous mettez toutes les boîtes les unes à la suite des autres, ça ferait on a 450 millions de boîtes par an. On est le deuxième acteur sur le marché pharmaceutique. Et les 450 millions de boîtes, ça fait la circonférence de la Terre. Voilà.
D'accord, donc la prochaine fois, on y pensera quand on ira en pharmacie. Sébastien Michel, vous avez fait aussi Sciences Po ?
Grenoble.
Hein ? Sciences Po quand même, vous êtes vice-président des affaires réglementaires du GEM. Le GEM, c'est le un peu le syndicat des industriels du générique ?
Oui, tout à fait, c'est une association qui regroupe la vingtaine de gros acteurs du médicament générique en France.
Et vous êtes le patron des affaires publiques chez Viatris. Et cerise sur le McDo, comme on dit, vous êtes le maire d'Écully, à côté de Lyon.
Tout à fait, une magnifique commune que j'invite vos auditeurs à regarder.
J'ai regardé sur Google, c'est vrai, c'est tout près de Lyon. C'est
tout près de Lyon, ça jouxte Lyon, et c'est une très belle commune, très dynamique, avec un campus universitaire et beaucoup de choses très intéressantes.
Alors Viatris est partie du LEM et il est très actif, j'imagine, non ?
Oui, alors chez nous, Viatris, on est toujours très actif, d'abord, et on est très engagé, donc c'est vrai au sein du LEM, puisque Christophe Maupas est au conseil d'administration et au sein du GEM où je suis vice-président, et cet engagement finalement il se poursuit aussi au niveau local, puisque on a cette volonté d'être vraiment connecté à l'écosystème local. C'est vrai à Lyon et c'est vrai aussi sur les différents sites sur lesquels on est présent, puisque au-delà de nos sites administratifs, si je puis dire, à Lyon, à Paris, on a aussi une empreinte industrielle forte au cœur des territoires français, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et on en est très fiers.
On va en reparler. Est-ce qu'on peut dire que le générique a gagné ses lettres de noblesse?
Je le crois. Moi, personnellement, je le crois. Oui. On voit que le générique, aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu le médicament du quotidien des Français. Les Français ont l'habitude du médicament générique. Et surtout, il faut savoir aujourd'hui qu'en France, 2 comprimés sur 3 qui sont dispensés, c'est des génériques. Donc on voit que les volumes sont importants. Ces génériques qui représentent aussi 70% de ce qu'on appelle les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, et également 40% de ces génériques sont aujourd'hui dans les 450 molécules critiques qui sont surveillées de près par le gouvernement. Donc oui, les Français sont familiers, mais pour autant, il y a encore un petit peu de travail.
Oui, parce que je pars toujours du syndrome Astérix, hein, le Gaulois, rebelle, contre tout, etc. Il y a encore certaines réticences, moi je le vois, moi, dans ma pratique,
c'est vrai, vous avez...
il y a encore parfois quelques réticences sur le.
Oui, et il n'y a pas de raison, parce que c'est vraiment le même produit. C'est exactement le même produit.
J'ai beau le dire, mes patients, c'est la même chose.
Parfois c'est même mieux parce que les packagings sont plus récents. On peut vous écrire dessus combien il faut en prendre le matin, le midi et le soir. Donc c'est même presque mieux. Mais en tout cas, le principe, c'est que c'est le même produit. Ouais. Mais j'ai l'impression que le débat, il est plus tellement au niveau du comptoir du pharmacien ou le patient, dans la grande majorité des cas, ou chez le médecin, où le patient accepte. Il est presque plus la survie de du générique, parce que peut-être qu'on en parlera sur les problèmes d'approvisionnement, sur les coûts des génériques, et c'est pas du tout pour jouer les pleureuses. On a un vrai souci économique sur ces produits. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un traitement par de l'amoxicilline pédiatrique, donc c'est un traitement pour un enfant, pour une infection, c'est 67 centimes d'euros le prix que le fabricant le vend au grossiste. Ça veut dire que c'est pour un traitement avec tout ce qu'on doit mettre comme normes de fabrication, c'est la moitié du prix d'une baguette tradition.
C'est presque une vente à perte.
Alors, pour certains produits, on est à la limite de la perte, ou on est à perte, et c'est un débat, et Sébastien pourra en parler, c'est vraiment, on est très très proche des pouvoirs publics pour discuter de cette difficulté, parce que, comme le dit Sébastien, ce sont les médicaments du quotidien.
Sauf que Viatris ne fait pas que du générique.
Non. Alors nous, on est un petit peu un zébulon dans le paysage pharmaceutique, parce qu'on a cette particularité d'être un gros acteur du générique, certainement. On a aussi plein de marques. On a, je vais vous donner des exemples, un Fluvac dans la vaccination antigrippale. On a Bétadine, que certainement tous vos auditeurs qui sont passés à l'hôpital connaissent. Donc on a plein de marques. On a Zima, on a Lamaline. Donc on a les deux. Et puis même, et peut-être que vous voudrez en parler, on a des solutions innovantes, digitales.
On va en reparler. Voilà, très bien. Et ce que vous fabriquez, donc, vient principalement de France, fabriqué en France, des sites de production?
Alors, oui, dans 8 cas, si vous avez une pharmacie, dans 8 cas sur 10, le produit Viatris qu'on va vous donner, il a été fait en Europe. Et dans 4 cas sur 10, il était fait en France, dans un des 3 sites qu'a cité Sébastien, ou chez un de nos 30 partenaires industriels. Et donc, je crois qu'on contribue vraiment au maillage industriel. Et quand on parle de relocalisation, en fait, j'ai envie de dire, nous, on est déjà là. Et c'est notre matière de montrer qu'on est utile, parce que c'est un peu notre motto, c'est qu'on veut être utile à la santé des Français, et là, en l'occurrence, au maillage industriel du pays.
J'ai vu que 80% d'ailleurs de vos produits étaient fabriqués en France.
Non, 40% en France. 80% en Europe. 80% voilà, en Europe, 40% en France. Mais donc, 4 sur 10. Hein.
Oui, et vous avez pris aussi, vous avez su prendre aussi le train du numérique.
Alors, je vais vous donner 3 exemples parlants. Pour vous qui êtes cardiologue, on a un produit en cardiologie qui est Optify Self, c'est-à-dire que c'est une solution connectée avec une balance, un tensiomètre et une application. Le patient remplit un questionnaire et son cardiologue est branché à l'autre bout, et il peut voir si les paramètres du patient se dégradent. Ce qui permet
de... télésurveillance, en fait.
Voilà, c'est la télésurveillance. On le renvoie à l'hôpital, et ça évite de faire ça en urgence, où on revoit simplement...
Dans le cas de l'insuffisance cardiaque, par exemple.
Alors ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, qui est vraiment aussi assez intéressant, c'est un casque de réalité augmentée ou virtuelle. Oui. Vous avez des écouteurs et on peut vous faire une petite intervention douloureuse. Je vous donne un exemple. Un grand brûlé qui doit avoir un soin, c'est horrible de changer les pansements. Eh bien, on peut le faire uniquement avec cette solution, au lieu des produits d'anesthésie ou antidouleur, ou au moins on diminue beaucoup les doses. Donc c'est absolument incroyable. Voilà. Donc on a d'autres exemples. On est sur plein de. On a une troisième solution. C'est Joe. C'est un petit robot qui, pour les patients asthmatiques enfants, pour les aider à les accompagner dans la prise de leur traitement asthmatique. Vous savez que c'est pas facile, le dispositif. Mmh. Et ben ça les aide et ça leur rappelle de prendre le traitement. Voilà. Donc ça permet aux parents de. Ça aide les parents pour l'observance de ces produits.
Sébastien, Michel, on parle beaucoup de clause de sauvegarde. C'est en fait le fait de payer une taxe quand on fait trop de bénéfices, ce qui paraît.
C'est quand on contribue trop à la croissance des dépenses de santé. Et c'est l'un des combats que l'on mène depuis de nombreuses années, au sein du GEM notamment, mais pas que, en tant qu'entreprise. Parce que finalement, jusqu'en 2019, le médicament générique, il en était exclu de cette clause de sauvegarde. Pour une raison très simple, c'est que le médicament générique est beaucoup moins cher, moins 60% en général. Et donc, quand vous prenez un médicament générique, c'est moins de dépenses de santé. Donc, il y a d'une certaine façon quelque chose d'incongru à mettre de la clause de sauvegarde sur ces produits-là. Mais malheureusement, ça n'est plus le cas, on n'est plus exonéré. Et on dénonce très fortement ce mécanisme qui, pour nous, est à la fois inique et aveugle. C'est une double sanction, finalement, puisque d'un côté, on est sanctionné sur l'augmentation des volumes des médicaments génériques qui sont incités par les autorités de santé. Donc, il y a une forme de hiatus. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on nous pénalise, alors même qu'à chaque fois qu'une boîte de médicaments génériques est dispensée, c'est des économies de santé. Et finalement, on pourrait le résumer, je prends souvent cet exemple un petit peu trivial, en disant que finalement, mettre la clause de sauvegarde sur les médicaments génériques, c'est comme faire payer la taxe carbone à un cycliste. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être. Et donc, c'est l'un des combats que l'on mène.
C'est un des combats que vous menez.
Oui, et c'est juste petite précision, c'est pas une taxe sur les bénéfices, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, donc sur les ventes. Ça veut pas forcément dire, notamment dans le cas du générique,
qu'on gagne de l'argent.
C'est lié aux ventes. Voilà. Oui. Mais le bénéfice, il y a les frais entre deux. Et pour le générique, c'est une vraie difficulté.
Évidemment, on va parler de pénurie.
Oui.
C'est vrai,
grand sujet.
Gros sujet de pénurie de médicaments qui est d'origine plurifactorielle quand même.
Alors, il y a beaucoup de raisons. D'abord, la première chose, c'est dramatique d'avoir des patients qui doivent aller d'une pharmacie à l'autre pour chercher le traitement pour eux-mêmes ou pour un de leurs enfants. Je donnais l'exemple de l'amoxicilline. La première raison, c'est multifactoriel. La première raison, elle est plutôt bonne, c'est que la population mondiale a plus d'accès aux soins. Donc, les pays se développent, les gens peuvent se payer des médicaments. Il y a plein de pays où c'est pas comme en France, il n'y a pas de sécurité sociale, il faut payer. Mmh. Mais donc, ça, les gens ont accès aux médicaments et la population vieillit parce que la santé va mieux. Donc c'est le premier gros facteur, et depuis le Covid notamment, il y a donc cette augmentation de la demande mondiale. Donc le problème, il n'est pas français, il est mondial. Le deuxième facteur important...
Il faut satisfaire la demande qui est...
Il faut satisfaire la demande. Ouais. Donc voilà, il faut produire, et produire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de produire un médicament. Je vais vous donner un exemple. Sur chaque boîte de produits que vous achetez en France, pour éviter les contrefaçons, donc c'est plutôt bien, il y a ce qu'on appelle un data matrix, c'est-à-dire que chaque boîte, chaque unité a son propre numéro d'immatriculation comme une voiture.
Ça a remplacé le QR code d'ailleurs, c'est data
matrix. Oui, mais voyez la complexité. Ouais, donc, moi je parlais de 450 millions de boîtes, ça veut dire qu'il y a 450 millions de numéros dans un ordinateur rien que pour les produits Viatris. Un autre exemple. Troisième chose, les chaînes d'approvisionnement. Depuis les conflits en Ukraine, etc., c'est compliqué. Donc, tout mis bout à bout, en fait, oui, ça fait qu'on a des ruptures.
On parle aussi du prix des médicaments en France qui est trop bas, peut-être non
ou pas. Alors ça n'aide pas, c'est vrai que ces contraintes font qu'on a aussi sur les médicaments les moins chers, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont avec des sources uniques, qui viennent forcément de plus loin, c'est plus compliqué à assembler, et c'est vrai que ça n'aide certainement pas sur certains médicaments à bas prix. Viatris reste, on reste le laboratoire qui offre en pharmacie le plus nombre, en 2023 on était celui qui a fourni le plus grand nombre de références différentes disponibles en pharmacie, donc on a forcément avec notre nombre de produits des ruptures comme les autres, mais c'est vraiment un engagement quotidien de toutes les équipes, on est 1600 en France et les 1600 collaborateurs sont derrière pour qu'il y ait du produit en pharmacie.
Vous avez 10 secondes pour me dire comment vous voyez Viatris dans les 10 prochaines années.
Je crois que j'ai envie de dire on veut continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire être là utile pour les Français.
Sébastien ?
Oh ben je dirais pas mieux, je pense que c'est notre mission, c'est notre raison d'être.
J'espère parce que c'est notre raison d'être.
Et derrière, d'abord, on ne contredit jamais son patron
surtout la télé.
Public, surtout la télé. Et surtout, c'est ça, c'est notre raison d'être. Pour le dire plus sérieusement, on est là pour permettre aux patients d'avoir accès aux traitements dont ils ont besoin. Et vous savez, on se pose beaucoup de questions en ce moment en termes de RSE, de raisons sociétales. Je crois que ça, c'est le plus bel engagement qui soit, c'est de se dire qu'on va venir en aide à des patients qui en ont besoin.
Eh bien, merci beaucoup Christophe.
Merci, vous,
merci beaucoup Sébastien Michel.
Merci.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.